Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration de TikTok. On connaît tous plus ou moins cette appli phénomène. Plus d'1,5 milliard d'utilisateurs, née en Chine en 2017.
Oui, c'est ça. Et c'est bien plus que du simple divertissement. Hein.
Exactement. C'est devenu un acteur techno, économique et même politique majeur. On va s'appuyer sur plusieurs sources, notamment deux documentaires d'RT assez poussés.
Très intéressant d'ailleurs.
Oui. L'idée, c'est de comprendre un peu les rouages de cette machine, ses liens parfois complexes avec le pouvoir chinois. Et pourquoi ? Ben, pourquoi elle se retrouve au cœur de tensions géopolitiques, surtout entre la Chine et les États-Unis ? On va essayer de voir un peu l'envers du décor.
Tout à fait. Et pour comprendre TikTok, il faut d'abord parler de ByteDance. C'est la maison mère, créée en 2012 par Zhang Yiming, un jeune entrepreneur assez inspiré par la Silicon Valley, par Facebook et compagnie.
D'accord. Et ByteDance, avant TikTok, ils avaient déjà eu un succès en Chine ?
Oui, un gros succès même. En Chine, Tutiao, lancé en 2012. C'était une appli d'agrégation d'actualités.
Une sorte de fil d'infos personnalisé.
C'est ça. Basé sur un algorithme de recommandation qui était assez révolutionnaire là-bas à l'époque. 700 millions d'abonnés quand même.
Ah oui, énorme.
Et donc TikTok, lancé à l'international en 2017, reprend ce concept des vidéos courtes, mais surtout cet algorithme surpuissant de Tutiao.
C'est ça. La clé. L'algorithme, j'entends souvent dire qu'il est différent, plus efficace.
Ah oui, c'est vraiment le cœur du réacteur. Sa force, c'est sa vitesse d'apprentissage. Chaque geste compte. Un scroll, une vidéo regardée jusqu'au bout, même une hésitation.
Chaque seconde, en fait.
Chaque microseconde est une donnée. Il cerne tes préférences à une vitesse folle et te propose un flux de contenu quasi infini et hyper personnalisé. C'est redoutable pour capter l'attention.
Et ça crée une dépendance, j'imagine.
Oui, ça soulève de vraies questions sur l'addiction. C'est le trésor de ByteDance, cet algo. Pour TikTok, mais aussi pour Douyin, la version chinoise.
Justement, parlons de la Chine. ByteDance est né là-bas, dans un écosystème numérique très particulier, non ? La fameuse grande muraille numérique.
Exactement. C'est un environnement où le Parti communiste chinois contrôle énormément de choses. Et dans la tech, c'est très clair. Aucune entreprise n'est vraiment indépendante.
Donc ByteDance a dû faire des compromis ?
Forcément. Les lois sur la sécurité nationale les obligent à coopérer, potentiellement à partager des données. Il y a eu l'installation de cellules du parti au sein de l'entreprise.
Ah oui ?
Oui, oui. Et même l'autocritique publique de Zhang Yiming en 2018, après des critiques des autorités, les sources sont assez claires là-dessus. La coopération est inévitable.
Et ça implique quoi, concrètement ?
Pour Douyin, la version chinoise, il y a des soupçons d'utilisation pour la propagande, voire pour le système de crédit social.
Ce système de notation des citoyens.
C'est ça. Et plus grave encore, il y a eu des révélations assez troublantes sur une possible coopération de ByteDance avec les autorités pour la surveillance au Xinjiang.
La région des Ouïghours.
Voilà. Surveillance de la minorité Ouïghour.
Et c'est là, j'imagine, que les tensions internationales explosent. Surtout entre la Chine et les États-Unis.
Précisément, le succès incroyable de TikTok aux États-Unis, ça a jeté de l'huile sur le feu de la rivalité technologique sino-américaine.
Il y avait déjà eu l'affaire Huawei avant, non ?
Tout à fait. Ça avait déjà créé un climat de méfiance énorme envers les équipements télécoms chinois. Et donc, en 2020, l'administration Trump a tenté de forcer la vente de TikTok à une entreprise américaine.
Mais ça n'a pas marché.
Non. Pékin a refusé catégoriquement. Surtout de céder l'algorithme qu'il considère comme un atout stratégique national.
Pourtant, TikTok a essayé de se distancer de la Chine, non ? Ils ont mis des sièges sociaux hors de Chine, recruté des dirigeants occidentaux, lancé le fameux Project Access.
Oui, le projet avec Oracle, pour stocker les données américaines aux États-Unis.
C'est ça, ça n'a pas suffi à convaincre.
Apparemment, non. Selon les sources, notamment une enquête de BuzzFeed, des employés basés en Chine avaient toujours accès aux données américaines.
Ah d'accord.
Et puis, l'utilisation d'outils internes comme l'ARC, qui est basé en Chine, ça pose question aussi sur la séparation réelle. Tout ça nourrit la méfiance et ça a mené à la loi américaine très récente qui exige une vente ou une interdiction.
On en revient toujours à cette question cruciale, les données. Quelles données sont collectées exactement et c'est quoi le risque pointé du doigt ?
On parle d'une collecte massive, l'historique de navigation, ce qu'on tape au clavier, les contacts, potentiellement même des données biométriques.
Quand même.
Oui, et le risque principal, c'est l'accès potentiel à ces données par Pékin, pour du profilage à grande échelle, pour de l'espionnage. C'est la crainte majeure exprimée.
Mais on pourrait objecter que nos géants du web, les GAFAM, collectent aussi énormément de données. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Quelle est la différence ici ?
C'est une très bonne question. La différence fondamentale soulignée par les sources, c'est pas tant la collecte en elle-même, même si elle est massive des deux côtés.
Oui.
C'est le lien potentiel avec un État qui est perçu comme un rival stratégique et qui a un régime autoritaire. Même si les données collectées par les GAFAM peuvent finir via des courtiers en données entre les mains d'agences de renseignement américaines.
Ce qui arrive.
Ce qui arrive, oui. Mais l'adossement direct potentiel à un pouvoir comme celui de Pékin, ça change la nature du risque perçu par Washington et d'autres.
Et au-delà de la surveillance pure, il y a l'autre dimension, l'influence. La capacité de la plateforme à façonner ce qu'on voit. La guerre cognitive, comme on dit parfois.
Exactement. Et les sources donnent un exemple assez récent et marquant, le conflit israélo-palestinien après le 7 octobre 2023.
Ah oui, une étude a montré que les contenus pro-palestiniens avaient une visibilité beaucoup plus importante sur TikTok que sur d'autres réseaux. Alors, est-ce que c'est une orientation algorithmique volontaire, involontaire ? Difficile à dire. Mais ça soulève l'hypothèse que la plateforme puisse être un vecteur d'influence qui pourrait servir certains intérêts géopolitiques.
Donc, si on résume, TikTok, c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple appli pour passer le temps.
Ah ça, c'est sûr. La rivalité géopolitique.
Tout à fait. C'est un concentré de tous ces enjeux. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, un peu plus large.
Oui.
Au-delà de savoir à qui appartient l'appli ou qui accède aux données, la puissance même de cet algorithme, sa capacité à capter notre attention, à décider ce que des milliards de gens voient chaque jour. Est-ce que ces outils, en étant optimisés à fond pour l'engagement individuel, ne sont pas en train de reconfigurer, presque silencieusement, nos perceptions collectives?
Et peut-être même nos sociétés.
C'est une question vertigineuse, en effet. De quoi réfléchir bien après avoir fermé l'application.